Nous allons traiter Genèse 37, verset par verset. Maintenant, nous allons continuer un peu plus vite et plus en méthode survol. Eh bien, chapitre 38 est une parenthèse qui parle des chemins épouvantables, horribles de Judas, frère de Joseph. Un homme infidèle, un homme de cœur dur, vraiment en contraste avec Joseph. Eh bien, nous avons vu à la fin du chapitre 37, Joseph est arrivé en Égypte et il a été vendu à un des grands ministres du pharaon, Potiphar. Et ça continue au verset premier du chapitre 39. Et Joseph fut amené en Égypte. Et Potiphar, officier du pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites, qui l'y avaient amené. Et l'Éternel fut avec Joseph. Il était un homme qui faisait tout prospérer. Il était dans la maison de son seigneur, l'Égyptien. Eh bien, les versets qui suivent montrent que Joseph, comme esclave en Égypte, il est particulièrement béni par l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Comment ça se peut que l'Éternel soit avec un homme? En 2 Chroniques 15, nous apprenons que l'Éternel est avec nous si nous sommes avec lui. Donc, il y a une condition. L'Éternel n'est pas simplement avec nous. Mais lorsque nous sommes avec lui, et Joseph était avec l'Éternel. Mais dans sa condition, il aurait pu dire, mais où était le Seigneur lorsque j'étais dans la citerne à Dothan? Où était l'Éternel lorsque j'ai été vendu aux Ismaélites pour aller en Égypte? Et maintenant, comme esclave dans la maison de Potiphar. Et mes rêves. Un jour, mes frères vont se prosterner devant moi. Et maintenant, je ne suis plus en Canaan, là où mes frères sont, mais éloigné en Égypte. Comment un jour ça peut se réaliser? Mais nous voyons, Joseph est avec le Seigneur. Il reste fidèle sans comprendre les desseins, les plans du Seigneur. Mais dans les versets qui suivent, nous apprenons que Joseph reçoit comme esclave finalement la plus haute position dans le ménage de ce ministre du pharaon. Pourquoi? Eh bien, il a commencement déjà appris qu'est-ce que c'est que d'être un bon berger et de gérer la nourriture aux brebis. Mais maintenant, il apprend à gérer le ménage d'un des plus hauts ministres de l'Égypte. C'était une préparation pour être un jour le numéro 2 du pharaon pour gérer la nourriture pour tout le Proche-Orient. Alors le Seigneur avait un plan de préparation. Joseph ne savait pas, ne connaissait pas le plan, mais il a eu confiance. Et dans ce qui suit, dans ce chapitre, nous allons voir le jour arrive où l'épouse de Potiphar voulait induire Joseph à la fornication et à rompre donc le lien avec son mari. Et là, Joseph est clair. Nous lisons juste le verset 9. Il dit à cette femme, déjà du verset 8, et il refusa et dit à la femme de son seigneur, voici mon seigneur ne prend avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison. Il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je ce grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Et il arriva, comme il parlait à Joseph, jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Et il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait là, dans la maison, aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement, disant, couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit et sortit dehors. Alors, il reste fidèle, mais là où il n'y a pas de contrôle social. N'est-ce pas? Vivre avec les siens, c'est plus facile pour vivre moralement que de vivre seul à l'étranger. C'est une des raisons pourquoi des gens qui viennent de l'étranger en Suisse deviennent beaucoup plus facilement criminels. Parce qu'ils n'ont pas ce contrôle normal qu'on appelle le contrôle social, qui n'est pas à confondre avec une police secrète, mais chacun prend soin de l'autre et ça aide pour avoir une vie réglée. Mais Joseph, il n'avait pas sa famille en Égypte, il était seul, donc qui a un intérêt à sa marche morale, mais nous voyons donc sa motivation pour rester fidèle aussi dans cette question-là était simplement la crainte de l'Éternel. Pour lui, c'était clair, jamais je commettrai ce péché de fornication parce que l'Éternel est là, même que ma famille est loin. Éloigné en Canaan. Et ça montre de nouveau cette attitude intérieure de cet homme. Mais là, comme on lit dans la suite, femme de Potiphar, elle a parlé contre Joseph en disant que c'était un homme terrible, qui aurait presque voulu la forcer à la fornication. Et Joseph finit à la prison en Égypte. Et là, il aurait pu dire, Seigneur, où es-tu? Je reste fidèle, mais à cause de ma fidélité, ça va plus mal qu'avant. Mais nous allons voir aussi dans la prison, Joseph reste fidèle au Seigneur. En donc, quelques détails. Considérer. Est-ce qu'on a vu? Finalement, la femme de Potiphar a pris Joseph par son vêtement et il a laissé son vêtement, il a pris la fuite. D'ailleurs, tout à fait en accord avec 1 Corinthiens 6, où il a dit « Fuyez la fornication ». Donc c'est une décision du cœur, jamais, impossible. C'est pour ça qu'il a fui. Donc, le lieu de danger. Mais son vêtement a été dépouillé et est devenu la preuve, en guillemets, contre lui. Comme on a déjà dépouillé son vêtement à Dothan. Et juste pour continuer à étudier l'histoire de Joseph, il faut continuer à voir l'importance du sujet des vêtements, des habits. Ça jouera encore un rôle dans la suite. Et en rapport avec, encore avec le vêtement, à la fin du chapitre 37, nous avons vu que les frères ont mis le vêtement de Joseph dans le sang d'un bouc. Et avec ça, ils ont menti, ils ont mis en erreur leur père, tout en disant, voilà, évidemment, une bête terrible a dévoré Joseph. Et donc, Jacob a été induit à l'erreur par un bouc. Comment Isaac a été mis en erreur par Jacob? C'était aussi par les peaux d'un bouc. Et effectivement, les fils font en quelque sorte la même chose, ce qu'il a fait à son père. Et tout cela était pour former et éduquer Jacob. Mais nous allons encore voir pour finalement atteindre donc une dernière phase de sa vie où il devient comme une fleur qui s'ouvre. Dieu a atteint finalement le plan et le dessein avec Jacob. Eh bien, Joseph, il est dans une situation, par sa fidélité, il doit souffrir. Mais c'était en quelque sorte aussi un test de nouveau de son attitude morale pour aussi prouver que Joseph est digne d'avoir un jour cette position comme, j'ai dit numéro 2, mais je devrais dire numéro 1 en Égypte. Et voilà, toutes ces souffrances étaient en quelque sorte à la gloire du Seigneur. N'est-ce pas? La parole nous parle depuis le premier livre jusqu'au dernier du sujet de la souffrance. C'est un sujet tellement difficile qui pose les plus profondes questions du cœur humain. Pourquoi la souffrance? Eh bien, la parole nous montre que la souffrance peut être la conséquence de nos péchés. Mais la parole nous montre aussi que la souffrance peut être pour la gloire de Dieu. Quand on pense aux premiers quatre épreuves de Job, où il n'a pas péché, c'était vraiment des souffrances à la gloire de Dieu, comme le Seigneur en parle en Jean 9. Tout en disant que le sort de l'aveugle né est pour révéler la gloire de l'Éternel. Donc on peut souffrir pour la gloire de Dieu. Et Job a souffert pour la gloire de Dieu, et c'était une preuve que l'idée de Satan, que Job est seulement un croyant fidèle parce qu'il est tellement riche et béni. C'était faux. Parce que Job restait fidèle aussi lorsqu'il a perdu toutes ses fortunes et même tous ses enfants, les 10 enfants. Et ça, c'était pour la gloire de Dieu. Mais on peut aussi voir que la souffrance peut être un moyen d'éducation. Hébreux 12, on parle que nous sommes les fils. Et bien sûr, les filles de Dieu, et que c'est normal qu'on soit éduqué, et la souffrance est pour nous éduquer, pour nous former. Mais en plus, on peut aussi dire, la souffrance peut aussi être un moyen pour prévenir le péché. L'apôtre Paul, on parle en 2 Corinthiens 12, lorsqu'il parle de une souffrance particulière que Dieu a permis. Et il dit, j'ai 3 fois prié que cela finisse. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et là, il dit, parce que j'ai reçu tant de révélations divines, Dieu m'a ajouté cette souffrance pour que je ne devienne pas orgueilleux. Donc, ce n'était pas à cause de péché, mais c'était pour prévenir de péché. Donc, il faut toujours voir toutes ces différentes possibilités signification de la souffrance. Et dans le cas de Joseph, on voit qu'il a bien souffert, mais non pas parce qu'il est allé un faux chemin, son père Jacob l'a fait à tant de reprises, mais il était fidèle et la souffrance était vraiment pour le former, préparer pour un service plus tard. Et aussi pour montrer qu'il était digne à recevoir cette tâche du Seigneur. Eh bien, chapitre 40. Joseph dans la prison. Et également là, il était avec le Seigneur, parce que nous lisons que le Seigneur était avec lui. Et voilà, le chef de la prison l'a fait monter, 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 jusqu'à la plus haute position dans la prison en Égypte. Donc, ce chef de la prison était sans doute convaincu que Joseph n'était pas un criminel, comme la femme de Potiphar l'a présenté. C'est pour ça qu'il lui a confié tout, et avec ça, Joseph a appris à gérer toute une prison. Et vraiment de s'occuper de personnes individuelles. Parce que je lis ensuite au chapitre 40, verset 5. Et sans... Oui, je commence déjà un peu plus avant pour bien comprendre de ce qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est premier. Il arriva après ces choses que l'échanson du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Et le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers. Et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné. Et le chef des gardes les commit aux soins de Joseph. Tiens, il a dû prendre soin de personne. Maintenant, pas de brebis. Maintenant, non pas simplement des choses dans un grand ménage, mais maintenant prendre soin de personne. Et le chef des gardes le commit aux soins de Joseph et il les servait. Et ils furent plusieurs jours sous garde. Et songèrent un songe tous les deux, chacun son songe et en une même nuit. Chacun selon l'interprétation de son songe. L'échanson et le panetier du roi d'Égypte qui étaient emprisonnés dans la tour. Et Joseph vint vers eux au matin et les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Quelqu'un qui souffre énormément et qui est convaincu. Il y a tant d'injustices dans ma vie. Il ne regarde pas tellement les visages des autres et ce qui les préoccupe. Et là, on voit un homme qui n'était pas préoccupé avec soi. Et il avait donc cette attitude de regarder et de réaliser leur visage me transmet un message. Ils vont pas du tout bien et ils demandent comment ils vont. Alors, je vous explique, nous avons eu des rêves et ici, je le dis avec mes propres paroles, ici, à la prison, on n'a bien sûr pas les prêtres d'Égypte qui sont en relation avec les dieux de l'Égypte pour interpréter ce message des dieux. C'est pour ça que nous sommes tristes. On n'aura pas l'information de la signification de nos rêves. Alors là, Joseph, ensuite, il dit, mais il y a Dieu qui peut interpréter les rêves. Tiens, lorsque Joseph parle à ses païens, ils vénéraient tant de dieux en Égypte, avec un corps, en général corps humain, avec des têtes d'animaux. Quand il dit Dieu, c'est interpréter les rêves. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris par le terme Dieu? Bien sûr, Joseph a pu parler plus, et la parole est comme dans un tableau fait par un crayon noir, indique seulement ce qui est absolument nécessaire pour nous dire, mais il est clair que Joseph a pu parler de son arrière-grand-père, Abraham, qui est venu d'Ur des Chaldéens par l'appel direct pour aller au pays de la promesse. Il a pu parler de ce Dieu qu'il connaissait par son grand-père Isaac, par son père Jacob, et pouvait aller plus loin jusqu'à la création, au récit de la création. C'est connu, bien sûr, transmis dans la famille. Eh bien, il dit, Dieu sait interpréter des rêves. Et les deux racontent leur rêve et Joseph explique, l'un va sortir de la prison, il va être réinstitué dans son service et l'autre va mourir. En plus, il explique, cela va se faire dans 3 jours. C'est un peu un risque, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si un psychologue séculier interprète un rêve, il ne va pas donner de tels détails. Parce que dans 3 jours, il va être révélé comme un faux prophète. N'est-ce pas? On va parler un peu autour. On explique comme si c'était des nuages. Mais lui, il explique exactement comme ça. Mais là, à ce moment-là, j'aurais pu dire, mais Joseph, tout en se parlant soi-même, Joseph, tu as eu 2 rêves. Tes frères, un jour, vont se prosterner. Même ta maman est ton papa. Et maintenant, tu es dans une situation où on pourrait dire, ça va jamais se réaliser. Si tu es peut-être toujours en Canaan, oui, mais jamais. N'est-ce pas? De tout le problème du doute. Mais il n'avait pas ce problème. Il avait confiance en l'Éternel. C'est pour ça qu'il l'interprétait. Et on voit dans la suite, tout s'est réalisé exactement comme il a interprété. Il était un vrai prophète de l'Éternel. Et cela l'a encouragé. C'était juste maintenant. Alors, je vais voir un jour que mes rêves comme jeune homme, reçus comme jeune homme, vont se réaliser également. Donc, c'était un encouragement du Seigneur. Et dans ce contexte-là, il a encore expliqué à cet homme, ce ministre qui devait être réinstitué. Si tu vas vers le pharaon, raconte-lui. Donc, rappelle de moi. Et nous lisons que finalement, ce ministre a été réinstallé, mais il a oublié Joseph. Verset 23, chapitre 4, 40. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph et l'oublia. Quelle souffrance. Il a fait tant du bien à cet homme et maintenant oublié. Et ça devient encore plus dramatique si on continue. Chapitre 41, verset 1er. Il arriva au bout de 2 années, révolu que le pharaon songea et voici il se tenait près du fleuve. 2 ans ont écoulé. Jusqu'à ce que Joseph soit 30 ans. Et 30 ans. Et Eh bien, il aurait pu se dire, mais c'est quand même triste. Ma jeunesse est ratée. Les années où je suis comme une fleur jusqu'à 30 ans ont passé et je ne me suis même pas marié. J'aurais eu l'occasion avec avoir une relation illégitime avec la femme du pharaon, mais j'ai complètement renoncé. Mais maintenant, à 30 ans, j'ai raté 13 ans de souffrance, mais il restait. Voilà, le jour vient, ici au chapitre 41, où le pharaon a un double rêve. Et je vais lire. Merci. Oui, encore. Il arriva au bout de 2 années révolues que le pharaon songea. Et voici, il se tenait près du fleuve, c'est-à-dire le Nil. Et voici, du fleuve montaient 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et elle paissait dans les roseaux. Et voici après elle, 7 autres vaches montaient du fleuve, laides à voir et pauvres de chair. Elle se tint à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve. Et les vaches laides à voir et pauvres de chair mangèrent les 7 vaches belles et à voir et grasses. Et le pharaon s'éveilla. Et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici 7 épis gras et bons montés sur une seule tige. Et voici 7 épis pauvres et brûlés par le vent d'Orient germés après eux. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 épis gras et pleins. Et le pharaon s'éveilla. Et voilà, c'était un songe. Il arriva au matin que son esprit fut troublé. Il envoya et appela tous les devins de l'Égypte et tous ses sages. Le pharaon leur raconta ses songes. Il n'y eut personne qui les interpréta au pharaon. Et le chef des échansons parla au pharaon, disant, je rappelle aujourd'hui mes fautes. Le pharaon fut irrité contre ses serviteurs et me mit sous garde, moi et le chef des paretiers, dans la maison du chef des gardes. Et nous songeâmes un songe dans une même nuit, moi et lui. Nous songeâmes chacun selon l'interprétation de son songe. Et il y avait là avec nous un jeune hébreu. Un jeune hébreu. Serviteur du chef des gardes. Et nous lui racontâmes et nous interprétâmes nos songes. Il donna chacun l'interprétation selon son songe. Et là, il arriva que comme il nous avait interprété, ainsi il advint. Moi, le pharaon, me rétablis dans mon poste. Et lui, il répondit. Et pharaon envoya et appela Joseph. Enfin, il fallait ces 2 ans. Et c'était aussi pour encore former Joseph à attendre jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Et exactement là, le pharaon reçoit 2 songes et il devient clair que ce n'est pas un songe venu ou donné par les dieux d'Égypte. Parce que tous les prêtres de l'Égypte était incapable de donner une interprétation à ses rêves. Même que le pharaon expliquait ce qu'il avait rêvé, il n'était pas comme Nebuchadnezzar. Beaucoup plus tard, il aura aussi un rêve de la part de l'Éternel. Mais là, lorsqu'il a appelé donc tous ces prêtres qui étaient en relation avec les dieux de Babylone, il ne leur disait pas le rêve. Pour être sûr s'ils sont vraiment en relation avec les dieux de Babylone, avec le dieu de la sagesse, le dieu de l'interprétation, etc., eh bien, ils seront capables de lui dire ce qu'il a rêvé. Et ce sera la preuve, s'ils savent dire ce qu'il a rêvé, que l'interprétation devrait aussi être juste. Mais là, le pharaon, il a même raconté, et c'était un risque, parce que là, il y a des gens qui savent bien parler, n'est-ce pas, et donner n'importe quelle interprétation. Mais ils ont tout de suite avoué, impossible, incapable. Donc, pour le pharaon était préparé à réaliser, les dieux de l'Égypte ne sont pas capables de faire tout. Et on peut recevoir, et même le pharaon, qui était considéré, n'est-ce pas, comme le lien entre les humains et les dieux. Et le pharaon aussi était vénéré comme un dieu. Alors, lui-même était pas au clair ce qui concerne la signification de ses rêves. Donc, il fallait quelque chose de l'extérieur. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Paul à Athènes. N'est-ce pas? On l'a mis devant le tribunal et là, il explique. J'ai visité votre ville et j'ai trouvé un autel qui était dédié au Dieu inconnu. Et bien sûr, sans aucun doute, Paul savait l'histoire de l'arrière-plan. Vers 600 avant Jésus-Christ, il y avait la peste à Athènes. Et les gens sont morts en grand nombre. Et là, ils ont offert aux dieux, à tous les dieux, mais rien changé. Ensuite, ils ont envoyé une délégation à l'île de Crète pour chercher Épiménide, qui est venu et a expliqué à Athènes devant le tribunal, vous avez offert à tous les dieux. Rien ne s'est passé. Donc, preuve que vous n'avez pas encore apporté des sacrifices à ce dieu qui est derrière la peste. C'est pour ça qu'il faudrait construire des autels avec l'inscription Agnosto Theo, au dieu inconnu. Et ils ont fait comme ça, et ils ont offert des agneaux, et après, la peste est partie. Et Paul a pu expliquer à Athènes, lorsqu'il est arrivé, ce Dieu que vous vénérez sans le connaître, c'est le Dieu que je vous annonce. Et là, c'était aussi clair. Donc, l'interprétation de Joseph n'est pas en relation avec les dieux d'Égypte, mais Joseph, néanmoins, dit devant le pharaon, Dieu sait donner l'interprétation de tes rêves. Mais qu'est-ce que le pharaon a compris sous le terme Dieu? La même chose comme autrefois à la prison. Eh bien, c'était un moyen où Dieu a apporté l'enfant du seul vrai Dieu à l'Égypte. Et cela longtemps avant le mandat missionnaire du ressuscité dans le Nouveau Testament pour aller et atteindre toutes les nations du monde. Alors, c'est merveilleux de voir la signification sur ce plan, en rapport avec le sujet de la mission, comme Joseph a été envoyé en Afrique pour apporter le message du seul vrai Dieu à l'Égypte. Eh bien, Joseph s'est interprété le rêve. Donc, ces vaches qui sont sorties du Nil signifient 7 ans. Et cette vache, 7 ans, il y aura donc beaucoup trop de nourriture en abondance. Une bénédiction incroyable viendra sur l'Égypte, mais après les vaches naissent, ça parle donc de une période de 7 ans de famine terrible. Il explique tout cela et il donne aussi le conseil au pharaon tout en disant, il faudrait que tu cherches un homme qui pourrait gérer la nourriture. Donc il faut bien gérer cette multitude de nourriture pendant les 7 ans de bénédiction. Il faut savoir les utiliser pour 7 ans de famine. Il ne dit pas, d'ailleurs, regarde qui se tient devant toi. Là est la réponse, comment gérer toute cette bénédiction qui va venir. Il me dit, cherche un homme. Bien sûr, le pharaon comprend tout de suite. Qui pourrait faire ce travail si ce n'est pas Joseph? Qui était là d'ailleurs devant le pharaon, et le texte biblique nous dit qu'il a changé les vêtements et s'est habillé bien. Nouveau le sujet des habits. Donc, le moment finalement à 30 ans est arrivé où le sort de Joseph a complètement tourné et est devenu donc un moyen pour annoncer le seul vrai Dieu en Égypte. Et voilà, le pharaon l'institue, le met en position du numéro 2 en Égypte pour gérer toute cette bénédiction à venir. Et nous savons pourquoi Joseph était capable pour gérer, parce qu'il a fait tout un apprentissage pendant des années. Et c'est une belle pensée de voir déjà en Galates 1, l'apôtre Paul dit, Dieu m'a séparé, sanctifié, séparé, dès le ventre de ma mère. Et ensuite, il parle de ce moment où Dieu a pris plaisir de se révéler à Saul de Tarse. Mais il ne dit pas que depuis la conversion, Dieu a commencé à diriger ma vie. Il dit, il m'a séparé déjà dès le ventre de ma mère. Et cela veut dire que Dieu nous a formés déjà pendant toutes ces années, depuis la naissance, ou depuis notre origine dans la matrice, jusqu'à la conversion, en vue de ce qui va suivre. C'est pour ça que la vie de Paul n'était pas une vie d'accident, mais Dieu a déjà dirigé. Qu'il fallait grandir à Tarse, aller à Jérusalem, être instruit par un des plus grands rabbins à l'époque, Gamaliel, etc. Et Dieu a pu utiliser tout cela pour le service. Et c'est bien de voir que notre vie avant la conversion est importante. Et que Dieu avait déjà là, donc, un plan et il nous a formés. Et c'est pour ça. La formation de Joseph était idéale pour l'amener finalement à cette position de responsabilité en Égypte, comme témoin du seul vrai Dieu. Ensuite, j'aimerais lire 41, verset 53. Les 7 années de l'abondance qui avaient été dans le pays d'Égypte finirent. Et les 7 années de la famine commencèrent à venir comme Joseph avait dit. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Et tout le pays d'Égypte eut faim. Et le peuple cria au Pharaon pour du pain. Le pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph Faites ce qu'il vous dira. C'est merveilleux. La solution de la famine, la solution pour survivre, c'est Joseph. Et le pharaon lui allait vers Joseph et obéissait à Joseph. C'est comme dans le Nouveau Testament qui nous montre que tous ceux qui viennent vers le Seigneur Jésus auront la vie éternelle. Et il faut obéir au Seigneur Jésus. Eh bien, je continue. Et tout le pays d'Égypte eut faim, et le peuple cria au Pharaon, 56, et la famine était sur toute la face de la terre. Et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôt et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine sévissait dans le pays d'Égypte, et de toute la terre, on venait en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Et maintenant, le focus se sert sur la famille de Jacob. 42, verset 1er. Et Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Et Jacob dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y et achetez-nous en là afin de nous que nous vivions et que nous ne mourions pas. Les 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'envoya pas Benjamin, le frère de Joseph, avec ses frères, car il disait, de peur qu'un accident ne lui arrive. Et les fils d'Israël allèrent pour acheter du blé parmi ceux qui allaient par la famine, car la famine était dans le pays de Canaan. Et Joseph était gouverneur du pays. Il vendait le blé à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Et Joseph vit ses frères. Il les reconnut. Et il fit l'étranger vis-à-vis d'eux et leur parla durement. Il leur dit, d'où venez-vous? Ils dirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Et Joseph reconnut ses frères et eux ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait songés à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions. C'est pour voir les lieux ouverts du pays que vous êtes devenus. Eh bien, quel moment pour Joseph. Maintenant, à 32 ans, ses frères arrivent en Égypte et se prosternèrent devant lui. Bien sûr, 10, non pas 11. Et son père et sa mère n'étaient pas là. Mais quel moment pour lui. Il a déjà vécu comme l'interprétation de ses rêves à la prison était juste. Ensuite, il a été encouragé par le Seigneur de voir comme l'interprétation des rêves du Pharaon se sont réalisés. J'ai dit à 32. Non, non, à 39. Ils arrivent pendant la deuxième année de la famine en Égypte. 39. Quelle période depuis 17 ans à 39. Et maintenant, ils se prosternèrent devant lui. Alors, là, on pourrait aussi critiquer, et j'ai vu, mais ça existe. Mais j'ai appris comme enfant de ma mère, il n'y a rien qui n'existe pas. Et par cela, j'ai compris bien des choses étranges dans la vie, dans le monde. Il n'y a rien qui n'existe pas. Eh bien, il a vu comme ses frères sont arrivés et ce n'est pas révélé. Et là, il y a des interprétations vraiment, vraiment fausses qui disent, oui, mais Joseph était dur parce qu'il avait de l'amertume. Quelle critique. Bien sûr, c'est ce qu'il a vécu par sa famille. Un rejet total de sa famille. Mais comment on peut supporter ça, ces blessures de l'âme? Et on voit parce qu'il était vraiment avec le Seigneur. Le Seigneur lui a donné la force d'endurer toutes ces blessures. Et là, ce n'était pas l'amertume. Parce que nous allons voir finalement comment Joseph sera prêt à pardonner complètement. Et pourquoi il était si dur? Il a reçu la sagesse divine de ne pas tout de suite se révéler. Parce que à ce moment-là, les cœurs de ses frères n'étaient pas encore dans un état où il fallait se révéler. Il fallait que Dieu fasse une œuvre dans leur cœur. Et seulement lorsque cette œuvre était accomplie, il s'est révélé. Je suis Joseph, votre frère. Est-ce que mon père vit encore? Ce n'était pas encore le moment. Il fallait être dur avec eux. Et il a dit, vous êtes des espions. Et eux, ils répondent, non, nous sommes des hommes corrects. Yes. Des hommes tellement horribles et affreux qui voudraient tuer leur frère et qui ont vendu leur frère comme esclave en Égypte et disent, nous sommes des hommes bien, des hommes corrects. Non, vous êtes des espions. Alors, on voit, leur état n'a pas encore changé. Il fallait une œuvre divine dans leur cœur. Et ils doivent s'expliquer, ils disent, parce que cet homme dur demande, est-ce que vous avez encore un frère? Est-ce que votre père va bien? Mais c'est étrange, cet homme. Pourquoi il s'intéresse à notre père? Pourquoi il s'intéresse à un frère de plus? Alors, ils expliquent tous. Et alors, Joseph leur explique qu'ils sont des espions et qu'il faut les punir. Alors je lis au chapitre 42, au verset 16. Déjà, verset 14 peut-être. Juste pour voir le contexte. Et Joseph leur dit, c'est ce que je vous disais en disant, vous êtes des espions. Par ceci, vous serez mis à l'épreuve. Vite du Pharaon, si vous sortez d'ici, à moins que votre jeune frère ne vienne ici, envoyez l'un de vous et qu'il aille chercher votre frère, et vous serez liés et vos paroles seront mises à l'épreuve. Pour voir si la vérité est avec vous. Sinon, vie du Pharaon, certainement vous êtes des espions. Et les fit mettre ensemble sous garde pendant 3 jours. C'est-à-dire, ils ont été mis dans la prison. À la prison. Pourquoi ils ont dû aller en prison en Égypte pour vivre au moins pendant 3 jours? Ce que ça voulait dire pour Joseph d'être à la prison en Égypte. Ensuite, il leur explique, vous allez chercher aussi votre frère. La prochaine fois, il vient avec vous. Et dans la suite, nous allons voir que ses frères ont vraiment un problème. Parce qu'ils s'expliquent devant Joseph, impossible. Notre père ne pourrait jamais supporter s'il va encore perdre son dernier fils. Eh bien, Joseph voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, ils peuvent même supporter que Benjamin a une meilleure position que les 10 et il commence à sentir avec le père. Mais bien sûr, il faut toujours penser jusqu'à ce moment-là, ils n'ont jamais avoué à leur père que c'était tout menti. Et Joseph n'était pas mort. N'est-ce pas? Ils ont vécu avec cette culpabilité. Et qu'est-ce que ça a fait dans leur âme pendant des années? Vivre avec le mensonge, c'est terrible. Eh bien, il fallait cette œuvre, ce n'était pas l'amertume de Joseph. Et maintenant, j'aimerais encore lire au verset 20, 42, verset 20. Et amenez-moi le plus jeune de vos frères, et vos paroles se trouveront vraies, et vous ne mourrez pas. Et ils firent ainsi. Et ils se dirent l'un à l'autre, certainement, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. Et Ruben leur répondit, disant, ne vous ai-je pas parlé, disant, ne péchez pas contre l'enfant, mais vous n'avez pas écouté, et aussi voici son sang est redemandé. N'est-ce pas? Ils se parlaient en hébreu. J'étais sûr que cet homme dur en Égypte, il ne comprend pas un seul mot. Parce que la communication allait toujours avec un traducteur. Donc, il a parlé en égyptien et ça a été traduit en hébreu. Entre eux, ils se sont parlé en hébreu. Mais lui, il savait toujours l'hébreu. Il a entendu comme ils disent. Lorsqu'il a crié, Joseph a crié terriblement lorsqu'ils l'ont voulu jeter dans le trou, et lorsque il a crié aussi dans le puits, eh bien, ils étaient durs. Et maintenant, il entend comme ils disent, c'est le châtiment de Dieu. C'est un jugement de Dieu qui est venu sur nous. On a compris quelque chose se prépare en eux. Et maintenant, sa réaction est merveilleuse. Je lis au verset 22, à la fin. Elle ne savait pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Et il se détourna d'auprès d'eux et pleura. Elle revint vers eux et leur parla et prit avec eux Simeon, le lia devant leurs yeux. Il doit sortir pour pouvoir pleurer. À sa montre, ce n'est pas un homme d'amertume. Il a vu ce qui se forme dans les cœurs de ses frères. Et c'est ici d'ailleurs la première fois que nous voyons Joseph pleurer. Mais nous aurons dans la suite, jusqu'au chapitre 50, sept places où Joseph pleure. Mais la parole nous raconte seulement ces moments de pleurs. Nous pouvons être sûrs que depuis son enfance, depuis sa jeunesse, c'était un homme qui a tant de fois pleuré. Mais nous avons un verset dans les psaumes qui dit que Dieu ramasse toutes les larmes, et il les écrit dans un livre. N'est-ce pas? La parole parle de ce livre des larmes. Et le Seigneur prend connaissance. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être un travail pour faire à la maison après, trouver tous ces sept passages où Joseph pleure. Et nous aurons par ça des instructions merveilleuses. Eh bien, dans la suite, nous lisons verset 25. Et Joseph commanda de remplir de blé leurs sacs et de leur remettre leur argent à chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour le chemin. Et on leur fit ainsi. Et ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et s'en allèrent de là. Et l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne dans la caravansérail. Et il vit son argent. Et voici, il était à l'ouverture de son sac. Et il dit à ses frères, mon argent m'a été rendu. Et même, le voici dans mon sac. Et le cœur leur manqua. Et ils furent saisis de peur, se disant l'un de l'autre, qu'est-ce que Dieu nous a fait? De nouveau un choc. Pourquoi Joseph n'a pas seulement donné du blé, mais aussi leur argent? Ils voulaient que l'œuvre de Dieu continue. Donc ils ont dû passer de nouveau par un choc. Et il n'a pas enlevé ce moment de choc. Il le fallait. Un choc où il se sentait vraiment tellement mal à l'aise d'avoir des pièces d'argent. Ça leur rappelait quelque chose. Et maman était tellement heureux. Chacun de nous avait reçu deux pièces d'argent lorsqu'on a vendu notre frère. Et maintenant, ils reçoivent de l'argent, mais ils auraient été plein de joie s'il n'y avait pas cet argent dans leur sac. Eh bien, parce que là, ça les a rappelé du problème de l'argent qui jouait un rôle tout en rejetant leur frère. Et voilà, il retourne et voilà la catastrophe au verset 36. Et Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé d'enfants. Joseph n'est plus et Simeon n'est plus et vous voulez prendre Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. N'est-ce pas? Ils ont expliqué cet homme dur en Égypte, il nous a dit, la prochaine fois que nous allons venir, il faut prendre avec Benjamin. Et Simeon a dû rester comme prisonnier en Égypte. Eh bien, Jacob demande, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Il m'a pris Joseph, il m'a pris maintenant Simeon et il va encore prendre Benjamin. C'était aussi pour préparer Jacob pour la dernière phase de bénédiction dans sa vie. Et chapitre 43, verset 1er, et la famine pesait sur le pays. Il arriva lorsqu'ils eurent achevé de manger le blé, ce jour est venu, qu'ils avaient apporté d'Égypte, que leur père leur dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Et Judas lui parla, disant, cet homme nous a expressément protesté, disant, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec nous, avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas. Car l'homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Et Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait le tort de déclarer à l'homme que vous aviez encore un frère? N'est-ce pas? Très bonne question. Pourquoi vous avez dit ça à cet homme? Autrement, il n'aurait jamais demandé d'apporter Benjamin. Eh bien, il était clair pour sa famille, cette famille, finalement, on doit aller en Égypte, autrement, on va mourir et on doit prendre avec Benjamin. Et finalement, Jacob a compris. Il peut Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, C'est merveilleux. Chapitre 43, verset 16. Et Joseph vit Benjamin avec eux. Après toutes ces années. Et Joseph vit Benjamin avec eux. Et il y a celui qui était préposé sur sa maison. Mène ces hommes dans la maison et tue et apprête, car ces hommes mangeront avec moi à midi. Et l'homme fit comme Joseph avait dit, et il amena les hommes dans la maison de Joseph. Et les hommes eurent peur de ce qu'on les menait dans la maison de Joseph, et dirent, c'est à cause de l'argent qui fut remis dans nos sacs au commencement que nous sommes amenés pour qu'on se jette sur nous et pour qu'on tombe sur nous, comme ils sont tombés sur Joseph autrefois, et pour qu'on nous prenne comme serviteurs, oui, comme Joseph est devenu serviteur, avec nos ânes. Elles approchèrent de l'homme qui était reposé sur la maison de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison et dirent, ah, monseigneur, nous sommes descendus au commencement pour acheter des vivres. Il est arrivé, lorsque nous fûmes venus au caravansérail, que nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent. Chacun était à l'ouverture de son sac, notre argent selon son poids. Et nous l'avons apporté dans nos mains. Et nous avons apporté d'autres argent dans nos mains pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. Vous ne savez pas qui a fait ça. Au moins, lorsqu'ils se sont dit, c'est un châtiment de Dieu, parce que nous n'avons pas réagi au cri de Joseph, ils ont dit, c'est pour ça que Dieu a amené tout cela sur nous. Donc là, ils ont mis Dieu ensemble avec leur sort. Et là, ils disent, mais nous ne savons pas qui a mis tout ça dans nos sacs. Et maintenant, le verset 23 est grandiose. Un païen égyptien parle à ceux qui connaissent le seul vrai Dieu et leur explique, paix vous soit, ne craignez pas, c'est votre Dieu. Et le Dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent, m'est parvenu. L'Égyptien explique, c'est ce Dieu qui est le Dieu de Jacob. Le vrai Dieu, c'est lui qui vous a donné un trésor. Un païen leur explique. Et voilà, pour abréger un peu, le moment est arrivé où finalement, dans une situation de détresse encore devant Joseph, c'est Judas qui fait un plaidoyer, comme devant un tribunal, et il fait un plaidoyer pour Benjamin. Que Benjamin puisse retourner vers son père et que lui voudrait rester comme prisonnier en Égypte. Et dit, mon père ne pourrait jamais supporter donc la perte de Benjamin. Et là, les choses changent. Chapitre 45. Joseph voit, mes frères ont totalement changé. Maintenant, Judas serait prêt à souffrir seulement que Benjamin, le fils aimé du père, puisse survivre. Eh bien, chapitre 45, verset 1er, et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Et il cria, faites sortir tout le monde auprès de moi. et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs. Et les Égyptiens l'entendirent. Et la maison du Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, Ami Yosef, il parle hébreu. Parfaitement, sans accent. Ami Yosef, mon père, vit-il encore? Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. On s'imagine, quel choc! Cet homme dur parle l'hébreu et puis dit, je suis Joseph. Mais c'est un moment d'émotion, sans description, n'est-ce pas? Et alors là, il pardonne complètement à ses frères et il invite ses frères à venir habiter en Égypte et qu'il faut aller chercher Jacob en Canaan, qu'il descend également en Égypte. Alors là, on voit que c'était pas d'amertume. Il fallait cette œuvre dans les cœurs et le moment est venu où la réconciliation est devenue une vraie réconciliation. Il faut parfois du temps. Parfois, on ne peut pas forcer une réconciliation. Mais il faut du temps, il faut le travail dans les cœurs. Et lorsque le moment est mûr, c'est une chose merveilleuse. Eh bien, j'aimerais encore lire. Au chapitre 45, verset 21. Et les fils d'Israël firent ainsi. Et Joseph leur donna des chariots selon le commandement du Pharaon et leur donna des provisions pour le chemin. Il donna à chacun d'eux tous des vêtements de rechange. Tiens, on reçoit des vêtements fantastiques. Mais tous les frères, ils ont chacun d'eux tous des vêtements de rechange et Benjamin, il donna 300 pièces d'argent. Lui qui n'avait rien reçu, les deux pièces, il reçoit 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Et à son égard, et à son père, il envoyait ceci, 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé et de pain et de vivres pour son père, pour le chemin. Et il renvoya ses frères et ils s'en allèrent. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Et ils montèrent de l'Égypte et vinrent au pays de Canaan, vers Jacob, leur père. Et lui rapportèrent disant, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais là, on devient fou. Il était convaincu que Joseph est mort. Et il a vu son vêtement dans le sang. Mais à ce moment-là, il n'a pas vraiment fait attention. Parce que ah, il était convaincu qu'une bête terrible l'a déchiré. Mais à ce moment-là, le vêtement aurait été déchiré. Et le vêtement était encore complet. Simplement, il y avait du sang. Comme un détective. Mais dans un tel moment, on n'est pas détective. Mais il aurait pu voir, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il n'était pas déchiré. Mais maintenant, ce message, Joseph vit et il est gouverneur en Égypte. Comment on peut supporter un tel message? Eh bien, je lis au verset 25, 45, 25. Et ils montèrent de l'Égypte et vinrent au pays de Canaan vers Jacob, leur père. Et lui rapportèrent, disant, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et maintenant, mais son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Et le terme, on peut encore mieux traduire par son cœur est devenu immobilisé. N'est-ce pas? Il serait presque mort à ce moment-là. Mais presque, heureusement, et pas du tout. Mais c'était trop pour vraiment presque trop pour supporter. Et la suite nous dit, verset 27, et lui dire toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites. Elle vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les transporter. Alors, n'est-ce pas dans une telle situation, on pourrait dire, et pourquoi Joseph, qui aimait tellement son père, pourquoi il n'est pas directement allé en Canaan pour dire, Papa, je suis là, je vis, je vis. Il savait, là, le père serait mort. Il fallait envoyer les frères pour dire. Et puis là, la réaction est, c'est fou ce que vous dites. Mais ils sont arrivés avec des chariots d'Égypte, avec des richesses de l'Égypte. Alors, mais ça ne peut pas être vraiment fou. Mais comment ils retournent avec des chariots de l'Égypte? Alors, il y avait là une préparation pour finalement pouvoir accepter la vérité que Joseph vit encore. Et c'est pour ça que j'ai arrêté au milieu de la phrase. Je continue maintenant. 27 encore. Et il lui dit toutes les paroles de Joseph qu'il leur avait dites. Et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. C'est merveilleux. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Oui, cette transformation. D'abord, le cœur presque immobile. Ensuite, il prend de nouveau la vie ranimée et ensuite une décision. C'est assez, je vais en Égypte. Décision faite, mais il y a un problème là-dedans. Il savait bien que son grand-père, Abraham, dans une situation de famine, est descendu en Égypte. On peut prouver que c'était totalement faux. Les conséquences étaient néfastes. Alors, simplement d'aller en Égypte sans la permission de l'Éternel, c'est un problème. Mais je dis, mais non, je vais. C'est pour ça, au chapitre 46, nous lisons verset 1er, et Israël partit et tous ceux qui étaient à lui, et il vint à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Il va jusqu'à Beersheba, et là, c'est le moment. C'est la frontière du désert, n'est-ce pas? Et puis depuis là, on continue par le Negev, ensuite le Sinaï en Égypte. Mais au verset 2, nous disons, et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit et lui dit, Jacob, Jacob! Et il dit, me voici. Comme Abraham, me voici. Et il dit, moi je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi, je t'en ferai aussi certainement remonter. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur comprend qu'il a une peur dans son cœur. Est-ce que c'est vraiment juste d'aller en Égypte? C'est pour ça que Dieu dit, ne crains pas. Maintenant, dans ce cas, c'était juste d'aller en Égypte. Et on voit par cela, il y a parfois des situations où ça ne serait pas juste de faire cela, mais une autre situation où la même chose serait juste. Et ici, c'était le plan de Dieu de descendre et l'Éternel dit, je vais aller avec toi en Égypte. Ensuite, toute la famille va en Égypte et nous voyons finalement comme Jacob, il adore le Seigneur à la fin de sa vie. Il bénit encore tous ses 12 fils, chapitre 49, et ensuite il meurt. Et ça, la conséquence est donc une funéraille de 70 jours en Égypte. Et tout le pays d'Égypte est engagé. C'est incroyable. Oui, parce que cet homme avait un garçon obéissant, qui aimait le Seigneur, et qui est devenu le moyen pour sauver toute l'Égypte. Et l'Égypte a reconnu le Dieu de Jacob, c'est le vrai Dieu. Et ensuite, toute une grande délégation est allée en Canaan pour encore faire une funéraille pour Jacob. Et là, la parole dit que les Cananiens ont observé qui se passe. Cet homme qui était comme étranger chez nous en Canaan, il parlait toujours du seul vrai Dieu qui un jour va donner à ses descendants, à la descendance, ce pays, et reconnu par l'Égypte. Oui, parce que c'était Joseph qui a sauvé l'Égypte et le Proche-Orient. Et pour finir, après la mort de Jacob, je lis encore chapitre 50, verset 15. Et les frères de Joseph virent que leur père était mort. Ils dirent, peut-être Joseph nous haïra-t-il et ne manquera-t-il pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. N'est-ce pas, après ces années en Égypte, 17 ans, Jacob est encore en Égypte. N'est-ce pas, ça commence avec Joseph, 17 ans. Et là, l'histoire commence vraiment. Mais là, en Égypte, à la fin, encore 17 ans, où Jacob est de nouveau avec Joseph. Et lorsqu'il meurt, les frères se demandent, est-ce que le pardon de Joseph était vraiment réel? Mais ça, c'était dur pour Joseph. On voit verset 17, verset 16. Et ils mandèrent à Joseph, disant, ton père a commandé avant sa mort, disant, vous direz ainsi à Joseph, pardonne, je te prie, la transgression de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. La réaction de Joseph, et Joseph pleura. C'est pour la septième fois. Pleura quand ils lui parlèrent. Pour lui, c'était dur de voir. Ils ont quand même encore des doutes que mon pardon était réel. Mais ils ne s'arrêtent pas à ça. Alors, au verset. Verset 18. Et ses frères aussi allèrent et tombèrent sur leur face devant lui. Encore une fois, le rêve accompli. Et dirent, nous voici, nous sommes des serviteurs. Et Joseph leur dit, ne craignez point. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il en est comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point. Moi, je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants, et il les consola et parla à leur cœur. Ça, c'est la vraie relation d'aide. C'est pas un engagement total où il essaye de fortifier les cœurs, de laisser partir les craintes, et il parle au cœur, c'est-à-dire il essaie vraiment de s'adresser à l'intérieur des personnes qu'il encourage. Et ça prouve que son pardon était parfait. Et il donne la gloire à l'Éternel, au Seigneur, qui a pu changer le mal en du bien. C'est quelque chose que nous voyons aussi dans notre vie. Puisque Romains 8, verset 28, dit que toutes les choses vont servir au bien à ceux qui sont et qui appartiennent au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans notre vie, peut changer, transformer tout ce qui est et ce qui était du mal en du bien. Ça révèle donc une gloire, une majesté de notre Dieu qui est simplement magnifique. Ainsi, nous voyons que cette histoire qui nous a tellement intéressés et comme enfants, comme adultes, de retravailler cette histoire, de voir ces relations dans l'histoire des relations internes, c'est juste pour voir comme Dieu est un Dieu merveilleux et sa parole est simplement la vérité.